Pour ce qui est de la fête Dieu, je crois que c'est une des grandes fêtes de l'année, même si c'est un peu tombé en désuétude. On ne fait plus de processions dans les rues, ou à peine, pour signifier aux yeux de tout le monde la foi catholique, et c'est aussi la foi de l'Église orthodoxe, et sachez aussi que c'est la foi de certains protestants. J'ai rencontré des protestants, j'ai rencontré aussi des anglicans, dont la foi profonde en la présence réelle est quelque chose de très émouvant. Qu'est-ce que ça veut dire, je le dis pour les plus jeunes, que de croire en la présence réelle? Il est rarement question de ça aujourd'hui. C'est de croire vraiment que le maximum de présence de Jésus sur notre terre humaine, là, c'est dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire, un maximum de présence de Jésus? Évidemment qu'on le croit aussi que Jésus est présent partout, et qu'il est particulièrement, puisqu'il est Dieu, présent dans chaque personne que nous rencontrons. Il habite ses créatures. Tout par lui a été fait, dit le credo. Tout par lui a été fait. Mais est-ce que vraiment cette foi est suffisamment vivante dans nos églises? Je me le demande. Je crois, et je m'avance sur un terrain glissant, mais je crois que le fait de recevoir la communion dans la main, comme nous le faisons depuis déjà de nombreuses années, ce geste admirable de recevoir la communion dans la main, j'ai toujours été en faveur de ça, mais il n'en reste pas moins que peut-être, dans le subconscient d'une grande partie des gens, le fait de toucher ainsi avec ses mains à l'Eucharistie, le recevoir dans la main gauche, le prendre avec les doigts de la main droite, et de se communier soi-même, comme des adultes que nous sommes, c'est peut-être dans le subconscient de bien des gens comme une espèce de quasi, pas un rejet, mais un chemin sur l'oubli de la présence réelle profonde, sacrée, extraordinaire, que nous avions quand, dans les années 30, nous recevions notre première communion. J'ai reçu ma première communion en 1933, un 27 avril, et je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Et je me souviens d'avoir lu dernièrement l'entrevue d'un incroyant qui osait affirmer que le plus beau jour de sa vie était le jour où il avait reçu la première communion dans son enfance. L'enchantement dans lequel nous étions, formés que nous étions à cette présence réelle de Dieu, Jésus, Fils éternel du Père, dans ce petit morceau de pain qui était son corps, vivant, ressuscité, et que nous recevions lors de chants qui nous impressionnaient beaucoup, c'est le grand jour, les plus âgés se souviennent de ce chant qui nous émouvait énormément, et que l'on entendait que les jours de première communion. Et le fait de porter des uniformes, et nous portions un brassard, un insigne, nous étions tout fiers à 6 ans, 7 ans. Mais surtout, nous avions été très bien préparés. Et nous nous avancions vers ce qu'on appelle la Sainte Table. Ça n'existe plus, pour ainsi dire, dans la plupart des églises. Quoique ça existe à la cathédrale de Montréal, où l'on peut communier à genoux, et même recevoir la communion dans la bouche si on le désire. Et c'est toujours accepté dans cette église cathédrale. On peut communier comme on veut, debout, en recevant la communion dans la main, ou même debout en recevant la communion sur la langue. Il y a une très belle parole d'un père de l'Église qui nous dit que quand on communie, on doit présenter sa main et en faire le trône dans lequel celui qui nous a créés est déposé. Et c'est très beau de faire de sa main un trône, d'autant plus que nos mains sont uniques dans la création. Les mains humaines sont les seules qui peuvent faire tout ce que nous faisons de nos mains, des choses absolument minutieuses, des choses étonnantes qui dénotent que Dieu a vraiment voulu faire de nos mains des objets qui puissent transmettre de notre cœur, de notre intelligence, de notre âme, des choses que l'on fait par écrit, mais aussi les gestes que l'on fait quand on donne, quand on offre à d'autres du pain, de la nourriture, ou des moyens de vivre, ou des vêtements, quand on donne la main à quelqu'un pour le soutenir. Et quand une femme donne sa main à un homme, c'est qu'elle se donne tout entière pour la vie dans le mariage. Ce sont des expressions magnifiques. Et autour du mot « main », il y a des tas d'expressions que l'on retrouve dans le dictionnaire qui sont absolument admirables. Mais recevoir la communion comme on la recevait au moment de notre première communion dans les années 30, à genoux donc à la Sainte Table, il y avait d'ailleurs une nappe que l'on relevait pour mettre sur nos mains. Et le prêtre était accompagné d'un enfant de cœur, vêtu avec respect, qui portait ce qu'on appelle une patène, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce bout de bois, une manche de bois avec une assiette dorée que l'on y mettait derrière, sous le menton, afin d'éviter que si un accident survenait, bien l'hostie ne tombe par terre. Et je me souviens de quel empressement j'étais enfant de cœur quand j'étais enfant. Je servais la messe tous les jours. Et quand arrivait un accident comme ça et qu'une hostie tombait par terre, on en faisait énormément de complications. Peut-être avait-on une foi un peu trop grande. Peut-on avoir une foi trop grande dans l'Eucharistie? Je ne crois pas. Mais peut-être qu'elle était trop minutieuse et elle tendait à être... pleine de tensions nerveuses pour certaines personnes. Quelques rares prêtres, ici et là, en effet, n'en finissaient plus de nettoyer la patène après la communion, celle qu'ils ont sur le calice et qui avait porté le corps du Christ durant la messe. Et de cette patène, ils s'étaient eux-mêmes communiés. Et alors, ils avaient brisé l'hostie au-dessus de cette patène pour faire la fraction, et c'est-à-dire détacher de l'hostie un petit morceau, que les prêtres déposent dans le calice, dans le précieux sang. Et donc, il y avait de petites miettes, mais j'ai vu des prêtres prendre 3, 4, 5 minutes pour nettoyer leur patène, tellement ils étaient tendus, mais heureusement, c'était très rare. Ce qui était beau dans la foi d'autrefois, en tous les cas, pour ma part, c'était le grand respect qu'on avait pour l'Eucharistie, pour le Saint-Sacrement, qu'il soit exposé ou non, qu'il soit présent dans le tabernacle. C'était quelque chose. Et ainsi, quand on entrait dans une église, le premier geste que l'on posait, c'était vraiment après de s'être signé de l'eau bénite qui rappelait notre baptême, et on nous l'enseignait quand j'étais jeune, eh bien c'était de faire cette génuflexion en direction du tabernacle, afin d'adorer de tout son être le Christ présent derrière les voiles dans cette petite tente ou cette petite coffre secret où était enfermée l'hostie. Et ainsi, nous avions un grand respect quand nous passions devant l'autel majeur, si nous visitions l'église, on faisait une génuflexion et on adorait. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit les gens se promenant dans les églises et n'ayant plus ce sens. Et il faudrait peut-être que l'on ressuscite une foi profonde dans l'Eucharistie. Et que à la messe, on demande, chacun pour soi, mais pour si, pour toute la communauté, le sens de la présence réelle, le sens de l'adoration, le sens vraiment que le Christ vivant est là présent dans l'Eucharistie. Et la générosité de ce saint est tellement exceptionnelle dans l'histoire de l'Église que ça vaut la peine de le mentionner brièvement. Bessarion, B-E-2-S-A-R-I-O-N. C'est un anachorète, c'est-à-dire un ermite égyptien, qui avait pour disciple Doulas, qui nous enseigne, avec discrétion d'ailleurs, sur son maître, en ascèse. Il hésite à tout dire, parce que c'est tellement extraordinaire. Bessarion, c'est un vagabond de Dieu, absolument marginal. Comme peut-être on en voit dans les rues de Montréal ou d'ailleurs, et on se détourne, on se sauve, parce qu'ils nous font un peu peur. Ils sont tellement marginaux, ces gens-là. Hein. Il est toujours en pèlerinage, Bessarion, vers un monastère idéal. Et puis, un jour, il demeure tout nu pour couvrir un pauvre, imaginez. Hein. C'est sur la place du village, Bessarion découvre un cadavre tout nu. Alors, il enlève son mantelet qu'il avait, puis il en revêt le pauvre mort, ça lui fait pitié. Et plus tard, Il voit venir un mendiant. Alors, il a donné son mantelet, mais il lui reste son manteau. Alors, donc, il voit venir un mendiant qui est nu, lui aussi. Alors, il se dit, j'ai donné mon mantelet aux morts, mais je demeure vêtu alors que mon prochain ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si je coupe ma tunique en deux, eh bien, ni lui ni moi ne serons bien couverts. Alors, il me faut tout donner. Mieux vaut plus que moins, se dit Bessarion. Et alors, sur cette pensée, bien, Bessarion appelle le miséreux et sous un porche, il enlève son propre habit pour l'en revêtir. Il paraît que c'est authentique. Et ensuite, il s'assied tout nu. Vient à passer l'intendant de justice, c'est-à-dire le chef de la police, quoi. Il reconnaît le bon vieillard qui est réputé partout, même s'il est un peu étrange. Il l'interroge et dit, mais qui vous a donc détroussé, père Bessarion? Alors, il dit, c'est celui-ci. Et Bessarion, qu'est-ce qu'il fait? Il montre le Saint-Évangile. C'est celui-ci, c'est son évangile qui l'a détroussé. Alors, l'intendant de justice comprend tout et donne à son tour son propre manteau à ce pauvre homme, lui qui a les moyens d'aller s'en acheter un autre. Et une autre fois, ce Bessarion rencontre encore un pauvre. Il n'a rien à lui donner et sa décision est vite prise. Il court au marché, il vend son évangile. Il revient soulagé avec l'argent reçu, le pauvre miséreux. Puis, peu après, son disciple Doulas l'interroge et dit, « Père, qu'avez-vous fait de votre livre? » Et Bessarion rougit et déclare, « Ne vous fâchez pas, mon frère, je viens de le vendre, car il est écrit dans Matthieu 19, 21, chapitre 19, verset 21, hein, « Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. » Ce sont vraiment des personnages tellement étranges, tellement merveilleux aussi dans un sens, par leur extrême générosité. Nous sommes bien loin de tout ça pour la plupart d'entre nous, je pense, mais c'est tout de même formidable. C'est aujourd'hui la fête de Sainte Julienne Falconieri. Falconieri, grande famille, hein? Très grande famille. Et Julienne, qui appartenait à cette grande famille, a institué l'ordre des religieuses servites de la Bienheureuse Vierge Marie. L'ordre des religieuses servites de la Bienheureuse Vierge Marie. On connaît mieux les religieuses servites. Hein? Je vous rappelle que Mgr Cimichella, André Cimichella, qui a été longtemps curé de la cathédrale, qui est évêque auxiliaire à Montréal, eh bien, a écrit d'ailleurs la vie de Sainte Julienne Falconieri dans sa collection « Saints de tous les temps ». Il a écrit, c'est incroyable, tous les vies de saints qu'il a écrit, hein, Saint-Hubert, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean-Garcia, Saint-Paul, et puis Saint-François de Sales, etc., Saint-François d'Assise. Alors donc, ça c'est le 21e volume, mais c'est des tout petits volumes, hein, c'est pas très cher, c'est 50 pages environ. C'est tout signé de Monseigneur André-Marie Cimichella. Donc, Jeanne Falconieri a fondé cet ordre. Elle a été mise au nombre des Saintes Vierges par le pape Clément XII en 1341. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle a fondé les servites, comme vous voyez. Et nous en reparlerons plus longuement. C'est aujourd'hui aussi la fête de Saint Romuald. Saint Romuald, que l'on qualifie souvent de fondateur des Camaldules. C'est aussi la fête de Saint Gervais et Protais. Je le signale parce que une église près de l'hôtel de ville à Paris, Saint-Gervais-Protais, est un centre spirituel extrêmement important pour tout Paris, pour toute la France, et je dirais même pour l'Europe, car ils vivent dans cette église tous les jours, les moines de Jérusalem, hein, fondés par Pierre Delphieux, un ancien ermite au Sahara. Et Saint-Gervais-Protais sont des saints qui ont énormément fait parler d'eux. Hein. Ce sont des saints qui ont vécu à Milan, et qui étaient des deux frères, et par ordre d'un juge, eh bien, Saint-Gervais a été battu sans relâche avec des fouets garnis de plomb jusqu'à ce qu'il rendit l'âme. Et le deuxième, Saint-Protais, son frère, fut meurtri de coups de bâton puis décapité. C'est Saint-Ambroise de Milan, le grand Saint-Ambroise, qui a trouvé leur corps tout sanglant, en faisant des fouilles et sans plus de traces de corruption que s'ils avaient été tués le jour même. Et puis, au cours de la translation des restes de ces deux saints, un aveugle en touchant leur châsse, l'espèce de reliquaire dans lequel on mettait leurs restes, eh bien, cet aveugle a retrouvé la vue. De nombreux témoins ont vu ce miracle. Et on dit qu'aussi beaucoup de gens hystériques, probablement un ou deux possédés, ont été guéris. Des gens malades de toutes sortes de maladies, c'est encore aujourd'hui comme ça. Et c'est aussi la fête d'un saint Boniface martyr qui était disciple de saint Romuald. C'est la fête aussi d'un médecin aujourd'hui qui a été tué sous le règne de Néron. Médecin qui vivait à Ravenne, cette très belle ville de Ravenne, qu'il faut voir en Italie où il y a des basiliques remplies de mosaïques phénoménales. André Frossard a publié un très beau livre sur Ravenne et ses œuvres d'art, écrit dans un style absolument admirable, le fameux André Frossard qui est mort il y a quelques mois. Donc le médecin, lui, de Ravenne, qui sous le règne de l'empereur Néron a été condamné à mort, après de durs traitements, il était sur le point d'apostasier, puis c'est Saint Vital qui l'a encouragé et qui l'a aidé à endurer son martyre jusqu'à la fin. Mais ce médecin s'appelait Ursicin, nom extrêmement curieux. Donc revenons à Saint Romuald, qui lui aussi était de Ravenne. Il était de la famille des ducs de Ravenne. Donc il a connu, lui qui est mort en 1027, il a connu les belles basiliques de Ravenne qui datent, elles, du 6e siècle. Ils sont toujours là, hein. Il faut aller voir ça. Donc Romuald a été bénédictin au fameux monastère de Saint-Apollinaire-in-Classé, près de Ravenne. Saint-Apollinaire-in-Classé, c'est une de ces basiliques, de ces églises qu'il faut voir, hein. Il était désireux de vie solitaire, ce Romuald. Il était assoiffé d'absolu. Il a cherché longtemps sa voie. Et puis, il a fait des expériences dans la région de Venise, puis finalement dans le sud de la France, dans le Roussillon. Il faut voir dans le Roussillon les belles églises romanes du temps de Saint Romuald. Elles sont très bien conservées. Et il s'est fixé tardivement dans les montagnes toscanes en Italie. Et ce cheminement qu'il préconise lui-même, il dit qu'il faut se promener comme ça puis chercher. On trouve quand on cherche. Ça a l'air un peu contradictoire puisqu'il se voulait ermite et donc très stable dans un endroit donné et seul. Mais il s'est retiré finalement à Camaldolilémon. C'est de là que viennent le nom des Camaldules. Et sa première expérience communautaire, ça a attiré des gens qui ont désiré vivre comme ermites avec lui. Sont venus des gens extrêmement importants. Hein. Même le doge de Venise, c'est-à-dire le grand chef de Venise, s'est fait moine Camaldule. Même qu'il y a des papes qui ont été Camaldules. C'est une branche, en somme, bénédictine, très originale, très spéciale. Et la vie de Saint Romuald a été écrite par Saint Pierre Damien, qui a été son disciple et son compatriote. Et la vie de Saint Romuald, que l'on peut trouver en de nombreuses pages, doit être lue, je crois, dans cet ouvrage admirable publié chez Hachette et dont je vous ai parlé quelquefois, l'histoire des saints et de la sainteté chrétienne. C'est dans le tome 5. Il y a plusieurs pages consacrées à Saint Romuald avec d'admirables photos d'œuvres d'art. Et on nous explique que les Camaldules aujourd'hui sont répandus à la surface de la Terre. C'est curieux. Il y a une dizaine de monastères et d'ermitages sur les quatre continents, en Italie, en France. En France, ils sont à la Seine-sur-Mer, ils sont en Pologne, ils sont en Californie. En Californie, ils sont dans un des plus beaux endroits du monde, ils sont dans la Big Sur. C'est un endroit absolument merveilleux. Et ils sont aussi au Brésil, ils sont en Afrique, en Tanzanie, et même jusqu'en Inde, ils ont fondé un ashram de Camaldules. Saint Romuald nous a laissé, à travers Saint Pierre Damien, des choses et des remarques assez étonnantes. C'était un maître de contemplation que Romuald, qui se voulait ermite et en même temps un peu cénobite. C'est-à-dire quelqu'un qui vit seul, mais qui vit aussi avec d'autres. C'est un partage des deux, hein. Camaldules. Alors donc, un maître de contemplation, il se trouve souvent ravi en extase. Et puis c'est alors que, embrasé d'amour divin qui le dévore au fond de son être, il s'écrie « Mon cher Jésus, mon doux miel, douceur des saints, délice des anges, je vous adore. » Il avait ces expressions qui sont un peu curieuses, mais qui sont très belles. Elles soufflent du fond de son cœur. Hein. Je vois ici... une réflexion qu'il se faisait à lui-même. Il se parle à lui-même, puis il dit, « Romuald, mon garçon, si tu laissais faire la divine grâce en ton âme, qu'est-ce que tu ne pourrais réaliser? Tu veux agir par toi-même et tu gâtes tout. » C'est sympathique. Il dit aussi, « Mieux vaut réciter un seul psaume avec ferveur que 100 psaumes avec nonchalance. En somme, mieux vaut réciter un « Je vous salue Marie » avec ferveur que sans « Je vous salue Marie » n'importe comment. Il dit aussi, « Mieux vaut de très loin posséder Dieu seul qu'un million de mondes. » En somme, à quoi sert de gagner l'univers si tu perds ton âme? Cette parole qui avait frappé Saint-François-Xavier, hein, qui avait fait de ce saint, Saint-François-Xavier, le plus grand missionnaire peut-être de tous les temps. Il dit aussi, j'aime bien ça de Saint-Romuald, il dit, « La tentation n'est pas un mal. Il s'agit d'une épreuve méritoire et qui est une marque certaine de notre amour de Dieu. » En somme, quand on passe à travers une tentation, et j'espère qu'on passe toujours à travers toutes nos tentations, eh bien, c'est une occasion de prouver à Dieu notre amour. Et c'est là que l'on vit vraiment heureux. Parce que on adhère à Dieu plutôt qu'à soi-même. Il y a des petites choses badines et ridicules. Il dit aussi, et j'aime beaucoup ça, sur la vie des saints, il dit, la vie des saints me bouleverse. Voyant ce qu'ils ont fait, considérant ce que je fais, j'en meurs de confusion. C'est très beau, ça, de la part d'un grand saint comme Romuald. Il est mort très, très vieux, hein, dans une cellule écartée où, pendant de longs mois, il a gardé le silence. Et il disait aussi à des gens, il n'y allait pas de main morte, hein. Il dit à des gens, il dit, « Vos appels à la sainteté, vos faux airs de compassion et vos insinuations menteuses, oh, arrêtez-moi ça. Je vivrai et mourrai comme les Maccabées. » C'est dans l'Ancien Testament, hein. « Dans mon humble simplicité, vos assauts, ô vous qui n'êtes que de vils menteurs, je me déclare prêt à les soutenir courageusement, voire victorieusement avec l'aide de Dieu. » C'est parce qu'il était assailli par toutes sortes de gens superficiels et imbéciles à ses yeux. Enfin, il était sévère, hein? Il gênait pas. Mais c'était un peu spécial. Mais enfin, je vous conseille pas d'être comme lui sur ce point-là. Là. Quand il dit vos appels à la sainteté, vos airs de compassion, vos insinuations menteuses, arrêtez-moi ça. Il n'y va pas de même. C'est tout de même quelqu'un d'étonnant que ce saint Romuald. Hein. C'est aussi aujourd'hui la fête d'un professeur qui est devenu évêque, le bienheureux Odon de Cambrai, qui est mort en 1113. Odon, qui était de Cambrai, n'est-ce pas, dans la région d'Orléans, en France. Orléans, ça vous dit quelque chose, hein? Sainte-Jeanne d'Arc, tout ça. Alors, il a été professeur, moine et évêque. Il a été professeur, il a enseigné à Toul, dans la France, et à Tournai, qui est en Belgique. Un jour, ce bon professeur étudiait un passage du grand livre de Boès. Boès, on calcule qu'il a vécu de 480 à 525, à peu près, là. La consolation de la philosophie. Bon, alors, il étudiait ça. Il y était question du libre arbitre, c'est-à-dire de la capacité qu'on a de choisir entre le bien et le mal. Hein? Et ce cher Odon, O-D-O-N, Odon, pour s'éclairer, il a recouru au traité de Saint-Augustin sur le même sujet, à savoir si nous sommes vraiment des êtres libres. Hein? Et les paroles de Saint-Augustin l'ont ému étrangement. On ne dit pas ce qu'il a lu au juste. Il s'est mis à pleurer. Comme jadis Augustin lui-même pleurait sur une épître de Saint-Paul. Ces hommes solides et courageux pleuraient en lisant des textes qui les émouvaient et qui animaient en eux leur amour de Dieu. Alors, ça arrive, ça, n'est-ce pas? Dieu, parfois, pour toucher nos cœurs, se sert d'un écrit comme ça. Et puis, des écrivains deviennent, en somme, des collaborateurs de Dieu, des interprètes de Dieu dans nos âmes. Alors, Odon est sorti de cette lecture complètement transformé. Il a dit adieu à la vie du monde. Il est devenu chanoine régulier. Il a fondé une abbaye, la fameuse abbaye de Saint-Martin de Tournai, et puis qui a suivi la grande observance des bénédictins de Cluny, de la grande abbaye de Cluny en France. Et en 1105, il est devenu évêque de Cambrai, sa ville natale, et puis il a compté une forte opposition de la part d'un certain gaucher. Ça a fait tellement de bruit qu'il est entré à Tournai, tout en gardant sa juridiction sur Cambrai. Quand les gens s'opposaient aux évêques, dans ce temps-là, c'était dur, hein, très sévère. Et puis, dès là, il a gouverné son diocèse, qui était toujours en réaction contre lui. Il a fait de son mieux, puis il est mort le 19 juin 1113. Et sur son épitaphe, on peut relever l'avant-dernier vers où il est dit « Fuit exul deo fidu », c'est-à-dire il fut exilé, mais fidèle à Dieu. Alors, ceux qui ont des problèmes dans des communautés, ça arrive des fois qu'un religieux, une religieuse, ou même dans des emplois que l'on a dans le monde, hein, on est exilé. C'est-à-dire que on n'est pas compris par les autorités. Mais il faut rester fidèle à Dieu. Hein. À l'exemple de ce bienheureux Odon. Si on veut mériter un pareil éloge sur notre tombe, hein, sur sa tombe, c'est bien écrit, il fut exilé, fidèle à Dieu. Il a écrit un poème sur la guerre de Troie, ce professeur devenu évêque. Il a même publié un travail intitulé « Le sophiste » sur les sophismes. Vous savez ce que c'est qu'un sophiste, hein? Les gens qui font des raisonnements à bracadabran et qui arrivent à des conclusions qui tiennent pas debout. Il a écrit aussi un « Liber complexionum » sur les syllogismes, sur la façon de raisonner comme du monde, en d'autres termes. Il a fait une étude philosophique sur l'être et la chose, la différence entre l'être et la chose. Et dans la patrologie de Ming, dont je vous ai quelquefois parlé, cet immense ensemble de volumes compilés par ce prêtre, l'abbé Ming, un des génies de l'histoire de l'Église qui a vécu au siècle dernier. Il faudrait qu'un jour je vous parle de cet abbé Ming, pour lequel j'ai un immense respect. Mais dans le tome 160 de ces pères latins, parce qu'il y a toute une autre série sur les pères grecs, sur les écrits grecs, il reproduit, Ming, l'exposition sur le canon de la messe, qui est simple, qui est utile, un peu allégorique. Il reproduit aussi son traité sur le péché original, qui se place au point de vue philosophique et qui est étonnant pour l'époque, hein, sur ce traité sur le péché originel de Odon. Puis il y a aussi un dialogue avec le juif Léon sur la venue du Christ. Très, très, très intéressant aussi. Puis un opuscule sur le péché contre le Saint-Esprit, qui est le péché le plus grave. Quelqu'un qui pêche contre le Saint-Esprit, c'est vraiment le péché contre l'amour que Dieu nous porte. C'est pour ça que c'est le péché le plus grave. Péché contre l'amour de Dieu, je crois que on ne peut pas faire pire. Alors que s'unir à l'amour de Dieu, laisser l'amour de Dieu pénétrer son cœur, son intelligence, ses paroles, ses gestes, toute sa vie, c'est vraiment entrer dans le bonheur, hein. C'est partager la vie des saints. Il a fait aussi, cet Odon, une mise en synopse des évangiles. C'est assez étonnant, parce que c'était très, très audacieux. Écrire les textes des évangiles, mais les mettre ensemble, les trois premiers évangiles. Hein. Et puis, mon Dieu, il a écrit bien d'autres choses, enfin. Et maintenant, pour Sainte-Julienne de Falconieri, dont je vous ai pas suffisamment parlé, je vous dis que, on dit que les premiers mots qu'elle a prononcés, et pourquoi pas, ce furent Jésus et Marie. Après tout, je me souviens de ma petite fille qui avait dit dans une toux, alors que je m'en allais voir avec mon fils ma mère, qui habitait Sainte-Dorothée, dans une résidence malheureusement de vieillard, où il avait fallu la placer parce qu'elle était très âgée et un peu pas mal malade. Eh bien, dans l'automobile, ma petite fille s'est mise tout à coup à parler et a dit « papa, 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 papa » sans arrêt. Et c'était pour mon fils une joie ni l'autre pareil. Il avait éclaté en sanglots de joie. Hein. Et je crois que on peut enseigner aussi bien à nos enfants à dire comme premier mot Jésus et Marie. Et c'est ce qui est arrivé à Julienne Falconieri, qui est née dans une grande famille. Et dès l'année 1284, elle avait 14 ans, elle a reçu l'habit du tiers ordre des servites, car il existait déjà des moines servites. Hein. Et puis, aucun autre avait, elle, ne l'avait porté, cet habit du tiers ordre des servites. Ce fut Saint-Philippe Benetti qui a fondé les servites avec des confrères, des amis, et qui le lui a donné à Florence, sa ville natale. Et ce fut encore en présence de ce Saint-Philippe Benetti qu'elle fit sa profession. Et lui est mort pas longtemps après. Et il lui avait recommandé à sainte Julienne Falconieri de prier pour l'ordre tout entier. Elle se mit à jeûner complètement. C'est assez étonnant, les mercredis et vendredis, elle ne recevait ces jours-là que la Sainte Communion. Puis le samedi, elle prenait, dit-on seulement, du pain et de l'eau. Je ne recommande pas ça à tout le monde. Très dangereux de pratiquer des jeûnes aussi tenaces, aussi étranges. Et elle passait, dit-on, toute la journée à contempler les sept douleurs de la très sainte Vierge. Le vendredi, elle réfléchissait et méditait les mystères de la passion de notre Seigneur. Un peu comme on fait dans les églises ceux qui font encore le chemin de croix. Après la mort de sa mère, elle s'est occupée à réunir les mantellate, ceux qui portaient en somme des mantes, des femmes qui, comme elle, avaient vécu jusqu'alors dans leur propre famille. Alors elle les a réunies. Il y avait parmi elles une de ses cousines, Jeanne. Il y avait une sœur de Saint-Philippe Benetti. Et quand elles ont été installées, elle-même, elle allait pieds nus, dit-on, et la corde au cou. Mais il faut dire que dans ce temps-là, il y avait aussi les disciples de Sainte-Claire qui allaient nu-pieds dans leur couvent. Hein. C'est des exagérations, à mon avis, nous qui connaissons mieux, que c'est par l'amour qu'on est jugé, c'est pas par des excès comme ça, mais une certaine discipline, une certaine ascèse est nécessaire dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Donc, elle se promenait pieds nus, elle allait frapper à la porte des maisons de ces jeunes filles pour les appeler à faire partie de sa communauté, et Benoît XI a déclaré que c'était un véritable ordre religieux en 1304, et 2 ans plus tard, Julienne Falconieri acceptait d'être supérieure sur les instances du général là, qui avait succédé à Saint-Philippe Benetti. Et sachant bien que celui qui est le plus haut placé doit être le serviteur des autres, c'est dans l'Évangile, hein, eh bien elle recherchait les emplois les plus humbles. Elle dormait peu, elle s'étendait par terre, on trouve ça dans la vie de quelques saints. Ses oraisons qui duraient parfois jusqu'à 24 heures. Nous, on a de la misère à faire un quart d'heure, une heure ou deux heures. Elle, 24 heures à l'occasion. Hein. Ça lui a obtenu la force, la grâce de résister à n'importe quelle tentation. Elle est devenue une femme forte. Elle apaisa même des discordes civiles, des disputes qu'il y avait entre différents clans dans les villes de l'époque. Elle s'était intéressée aux pauvres, aux malades. Elle guérissait même par le seul contact de ses mains. Ça existe. Ça existe encore. Hein. Et à la fin de sa vie, bien à cause d'une maladie d'estomac qu'elle endurait depuis plusieurs années, elle ne supportait plus aucune nourriture. Même la communion lui a été refusée parce qu'elle ne pouvait pas. Et au moment de mourir, comme elle ne pouvait pas recevoir la Sainte Communion, elle a supplié le Père Jacques de Camporeggio d'apporter au moins le ciboire dans sa cellule. Écoutez bien ça, il y a des témoins. Je vous le raconte, si vous ne voulez pas y croire, n'y croyez pas. Mais je vous le raconte parce qu'il y a des témoins sûrs de ce miracle extraordinaire de l'Eucharistie. N'oubliez pas que c'était hier la fête de Dieu. Hein. Donc, elle s'est étendue par terre, les bras en croix. Elle a voulu qu'on ait place sur sa poitrine un corporal, c'est-à-dire cette pièce de tissu que le prêtre étend devant lui à l'autel pour célébrer la messe, comme une petite nappe. Hein. Donc, elle a eu un corporal sur la poitrine et elle a voulu que l'hostie y fût déposée. Et aussitôt, devant tous les témoins, celle-ci, l'hostie, est disparue miraculeusement. Oui, miraculeusement. Jeanne est morte en disant, « Mon doux Jésus, c'était le 19 juin 1341. Et lors de la toilette funèbre, on a trouvé sur le cœur de Sainte-Julienne Falconieri l'empreinte de l'hostie, marquée comme un sceau, avec l'image de Jésus crucifié. » Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est pas des dogmes, ça. Ce sont des événements mystérieux qui sont survenus dans l'histoire de l'Église et qui sont rapportés par des gens sûrs. C'est dire que, après ce miracle, on peut dire ensemble que le Seigneur, qu'elle avait tant désiré recevoir, l'avait exaucé au-delà de toute espérance. Et c'est en souvenir de ce miracle-là que les sœurs de sa communauté portent sur le côté gauche de leur scapulaire cette grande pièce de tissu que les moines et les moniales portent par devant et par derrière, un scapulaire, hein, portent l'image d'une hostie. Le corps de Sainte-Julienne Falconieri était enseveli sous l'autel réservé aux membres de sa famille, les Falconieri, qui étaient une très grande famille. En 1569, quand on a réparé l'autel, 228 ans après sa mort, et on mit les restes de la sainte dans une châsse, dans un reliquaire, à l'exception de son crâne, qui fut placé dans un autre reliquaire, et quelques reliques furent alors distribuées. En septembre 1718, la Sacrée Congrégation des Rites au Vatican a déclaré Sainte Julienne, fondatrice des religieux servites de Marie. Elle a été canonisée en 1737 et par Clément XII, après 400 ans après sa mort. Nous avons aussi la bienheureuse Micheline de Pesaro, très spéciale. Je vous signale que les Michelines, ça vient du nom Michel, qui est comme le Seigneur. Micheline de Pesaro était italienne, membre de la famille des ducs de Pardi. Et elle fut mariée à l'âge de 12 ans, mais devint veuve à 20 ans. Elle voulut alors changer radicalement la vie, de vie, et se consacrer à la prière et à la charité. Sa famille la fit enfermer comme folle. Imaginez. C'est une sainte dont je vous parlerai plus longuement demain. Aussi, le 29 septembre 1979, à Phoenix Park, en Irlande, voici un extrait de son texte. L'Eucharistie est pour chacun de nous un appel à un amour toujours croissant. L'Eucharistie est encore un vibrant appel à la conversion. Je relis ce texte. L'Eucharistie est encore un vibrant appel à la conversion. Et le pape continue en disant, nous savons que c'est une invitation au banquet. Qu'en nous nourrissant de l'Eucharistie, nous recevons le corps du Christ sous les apparences du pain. Précisément, à cause de cette invitation, l'Eucharistie est et demeure l'appel à la conversion. Si nous la recevons comme un tel appel, une telle invitation, elle produit en nous ses propres fruits. Elle transforme nos vies. Elle nous fait hommes nouveaux, créatures nouvelles. Il se réfère à l'Épître aux Galates, à l'Épître aux Éphésiens, à la deuxième aux Corinthiens en disant ça. Hein? Hommes nouveaux, créatures nouvelles. Et le pape termine en disant, elle nous aide à ne pas nous laisser dominer par le mal, mais à dominer le mal par le bien. L'Eucharistie contribue au triomphe de l'amour en nous. L'amour au-dessus de la haine, le zèle au-dessus de l'indifférence. Peut-être avez-vous des problèmes quand vous avez reçu la communion pour faire une action de grâce. Je vous lis un tout petit texte de Thérèse de Lisieux, qui est morte à la fin du siècle dernier, qui est morte à 24 ans. Voici ce qu'elle dit. « Je ne puis pas dire que j'ai souvent reçu des consolations pendant mes actions de grâce. » Les actions de grâce, je le dis pour les plus jeunes, là, c'est les prières que l'on faisait autrefois, longtemps après la messe, on restait dans nos bains et on priait, avec l'hostie dans notre poitrine. « Je ne puis pas dire donc que j'ai souvent reçu des consolations pendant mes actions de grâce, c'est peut-être le moment où j'en ai le moins. Je trouve cela tout naturel, puisque je me suis offerte à Jésus, non comme une personne qui désire recevoir sa visite pour sa propre consolation, mais au contraire pour le plaisir de celui qui se donne à moi. Je me figure mon âme comme un terrain libre, et je prie la Sainte Vierge d'ôter les décombres qui pourraient empêcher Jésus d'être libre. Ensuite, je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel, de l'orner de ses propres parures, et puis j'invite tous les saints et les anges à venir faire un magnifique concert. Il me semble, lorsque Jésus descend dans mon cœur, qu'il est content de se trouver si bien reçu, et moi je suis contente aussi. Tout cela n'empêche pas les distractions et le sommeil de venir me visiter. C'est une sainte qui parle. Hein? Mais au sortir de l'action de grâce, voyant que je l'ai si mal faite, je prends la résolution d'être tout le reste de la journée en action de grâce. C'est un beau texte. Être toute la journée en action de grâce. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous vivrez en compagnie des saints, en essayant de les imiter et de vivre un peu plus comme eux.